Le deuxième texte, c'est précisément à propos de la Tchouva de Caïn. C'est sur le verset 17 du chapitre 4, si je me souviens bien, de Bereshit, et qui dit ceci. Vayetse Caïn milifnei Hashem. Est-ce que c'est le chapitre 4? Oui. Et Caïn sortit de devant Dieu. Après que Caïn ait été jugé par Dieu, et Caïn est sorti de devant Dieu. Rabbi Chama, Beshem Rabbi Chanina, Bar Rabbi Yitzchak Amar. Au nom de Rabbi Yitzchak, on a cité l'enseignement suivant. Yatsa Sameach. Il est sorti du tribunal qu'il a jugé. Il est sorti joyeux. Hechma de Atamar. Et on cite un verset dans Shemot, chapitre 4, verset 14. Un verset très important parce que c'est un verset qui parle de la rencontre entre Aaron et Moïse. Et qu'on apprend d'autre part. Je le signale simplement en passant. Que c'est entre Aaron et Moïse, en fin de compte, que va se faire le tikkun, la restauration de la faute de Caïn et Hevel, par rapport à Hevel. C'est la réconciliation des deux frères. La tchouva de Caïn, si j'ose dire, se fait avec Aaron. J'ai parlé raccourci, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Là aussi, nous avons deux frères. Et le frère aîné reconnaît que c'est le frère plus jeune qui est le véritable aîné. Aaron, l'aîné, reconnaît la primauté de Moïse. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, cette situation restaure la faute de Caïn vis-à-vis de Hevel. C'est pourquoi, pour la Kabbalah en général, la tradition en général, on verra un parallèle entre l'histoire de Moïse et l'histoire de Hevel. Ce que je dis là est très schématique. L'histoire de Aaron et l'histoire de Caïn. Mais dans le sens de la rédemption. Caïn, finalement, a trouvé sa rédemption à différentes étapes. Une des étapes principales, c'est Aaron. Chaque fois que vous avez un premier-né tzaddik, ça veut dire qu'on a progressé dans la restauration de la faute de Caïn. Est-ce que c'est clair? En fin de compte, le sommet, si vous voulez, c'est Aaron et Moïse, mais déjà, il y a une étape très importante avec Joseph et ses frères. C'est aussi un fils premier-né, mais qui aime ses frères. Donc, c'est un sujet pour lui-même. Alors, le verset est le suivant, où on justifie le fait de dire qu'il sortit, que c'est en joie, et né ou yotse likratra, lorsque Moïse dit, mais je ne pourrais pas arriver tout seul à faire sortir Israël d'Égypte. Alors Dieu lui dit, tiens un frère qui va à ta rencontre. Et voici, il sort à ta rencontre, verra acha, il te verra, vesamar belibo, il se réjouira en son cœur. Lorsque Aaron sort à la rencontre de Moïse, il se réjouit. Alors on rapporte ce verset au verset précédent. Lorsque Caïn est sorti, il se réjouit. C'est clair jusque-là? Il se réjouit de quoi? Pagarbo Adam Arishon. Adam Arishon, le premier homme, l'a rencontré à Marlo et il lui a dit Mana Asa Benincha, qu'est-ce qu'il en est de ton jugement? À Marlo, Asiti Tshuva Venit Pasharti. J'ai fait Tshuva et je suis arrivé à un compromis, Nid Pashati, Pshara. Vous comprenez le mot de Pshara? Itri Adam Arishon m'est tapé à Halpana. Alors Adam Arishon a commencé à incliner la tête. Amar, il dit, Kahi Kor Hatshuva. Ainsi est la force de la Tshuva. Vanilo Haiti Odea. Et moi, je ne le savais pas. Miad Amad Adam Arishon de Amar. Alors, tout de suite, Adam Arishon s'est levé et a dit, il a dit le psaume du jour du Shabbat que c'est bon de louer Hachem. Je ne reviens pas sur l'explication que vous a donnée Shmuel dans son séminaire, mais je vais lire la suite. Amar Rabbi Levi dit à Mizmor Azé, ce psaume, Adam Rishon Amaro, Venishtakar Mendoro. Le premier homme l'avait dit, selon le midrash précédent, mais il avait été oublié depuis la génération d'Adam Rishon. C'est-à-dire, Adam Arishon a eu l'expérience que la tchouva est possible. Quoi? Caïn. Le fait que Caïn était en sursis. C'est clair? On va apprendre que finalement, le sursis de Caïn va réussir pour lui à l'échelle individuelle. Parce que le fait que Caïn a fait tchouva, on l'apprend d'un verset que je vais vous dire oralement. Va yeshev Caïn be'eretz Nod. Et Caïn s'installa, va yeshev be'eretz Nod, dans le pays de Nod. Or, Nod, en hébreu, c'est la racine de Nad, l'exil. Il y a une espèce de contraste dans les mots. Vayeshev, Et il s'installa dans le pays des nomades, Nod, Narvanad. Et Vayeshev est interprété par le Midrash, il a fait Tshuva. On apprendra que la faute, c'est l'exil, c'est un exil. Et que la Tshuva, c'est le retour. C'est clair ce que je dis là? La faute est comme un exil, et la Tshuva, c'est le retour. Bon, c'est l'exil qui est la faute, et c'est le retour qui est la Tshuva. Là aussi, c'est clair. Vous le verrez d'ailleurs dans la paracha de Nitzavim. Et ça veut dire que l'expérience de l'exil fait qu'il fera Teshuva. Alors donc, nous dit la suite du Midrash, Adam Harishon a connu la réalité de la Teshuva. Et puis ça s'est oublié, ou bas Moshe Vechidosho Al-Shamo, jusqu'à ce que Moïse vienne et renouvelle ce psaume sur son propre nom, lui Moïse. Shenehema, Mizmor Shir Liyom HaShabbat. Mizmor Shir Liyom HaShabbat, ça fait partie des 10 psaumes attribués à Moïse, qui se trouve au début dans le 4e livre des psaumes. Ça commence par Tefila, les Moshe, Isha Elohim. Tous les 10 psaumes qui suivent sont attribués à Moïse. En réalité, donc, le Midrash nous dit que la première expérience est le premier homme qu'il a eu, corollairement au sursis de Caïn, mais que ça s'est oublié qu'on pouvait faire Tshuva. Et puis, c'est Moïse qui a restauré. C'est clair jusque-là? Alors, nous avons déjà un certain nombre de données que je voudrais clore de la manière suivante. C'est que la Tshuva correspond au jour du Shabbat, d'après le lien que nous avons vu entre les deux Midrashim. Okay. Lorsque Adam Harishon a vu qu'on pouvait faire Tshuva, alors il a dit le psaume du Shabbat. L'explication est très simple. C'est que l'alliance du Shabbat, c'est de reconnaître l'existence du Créateur. Et je l'expliquerai assez rapidement, immédiatement. Et par conséquent, c'est le principe même de toute Tshuva. Si je décris le comportement de la faute, quelle qu'elle soit, je trouverai qu'à la racine, tout se passe comme si je raisonne de la manière suivante, ou en tout cas, mon comportement voudrait dire ceci. Je n'ai pas de souverain. La loi, c'est moi qui la dicte. À la limite, ça veut dire je n'ai pas le Créateur. C'est clair? Même si intellectuellement, je sais, mais le comportement signifie cela. Par conséquent, reconnaître de nouveau que je suis sous la souveraineté du Créateur, c'est le comportement de l'expiation de la faute, c'est le comportement du repentir. C'est le lien entre Shabbat et Tshuva. Dans les Tikkuné HaZohar, il y a un des chapitres des Tikkuné HaZohar, qui nous lit le mot de Bereshit avec deux mots, écrit Bereshit tout à l'heure, et enlève les lettres de Shabbat, qu'est-ce qui reste? Bereshit. Mais Bereshit. Shit. Alors en dessous tu mets Shabbat, sous les lettres, Shabbat. Bereshit, Kitab. Voilà, Shabbat. Et qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste comme lettre?
Ira.
Irat Shabbat, l'élite. Ça veut dire que, dès le principe, il y a une allusion au Shabbat. Alors donc, le raisonnement est finalement très simple. Le comportement de la faute signifie que c'est moi qui dis ce qu'est la loi. Je me conduis suivant ma loi. C'est clair. Ça veut dire que la situation de faute témoigne de ce que je ne reconnais pas la souveraineté du Créateur. Donc, reconnaître de nouveau, attester la souveraineté du Créateur, c'est la conduite de la Tshuva. Okay? Alors, ce qui reste à expliquer, c'est en quoi l'alliance du Shabbat, c'est essentiellement reconnaître la souveraineté du Créateur. Ça, je vais le dire très rapidement, mais jusque-là, ça va? Okay? C'est très simple. D'après l'enseignement de la Torah, les données sont très simples. C'est-à-dire, la Torah nous dit que le monde a été créé. Mais lorsque nous nous confrontons avec le monde tel que nous le connaissons, le monde nous suggère exactement l'opposé. Le monde suggère qu'il existe de par lui-même et qu'il fonctionne de par lui-même. Le monde ne suggère pas qu'il a un créateur. Et je pense que, de ce point de vue, les modernes sont devant une problématique très claire. La pensée scientifique a toute une imprégnation culturelle scientiste qui est que le monde fonctionne d'après des lois déterminées et que c'est j'emploie le mot de tout à l'heure, du délire, de dire que cela a été créé, nous voyons que ça fonctionne tout seul. Est-ce que j'ai clair? Est-ce que c'est clair? Plus exactement, le monde ne peut suggérer de façon catégorique l'idée qu'il a été créé ou l'idée qu'il existe par lui-même qu'à une conscience déjà convaincue de ce principe, déjà informée d'autre part. Celui qui a des raisons de savoir qu'il est créé, il voit qu'il est créé. Celui qui a des raisons de croire que ça fonctionne par lui-même, il voit que ça fonctionne par lui-même. Je ne sais pas si c'était suffisamment clair. C'est-à-dire, le monde ne nous dit pas son identité. Nous la lisons d'après nos propres options. Est-ce que c'est clair? Rien de la perception du monde ne peut trancher. Ce monde est-il créé ou pas? Or, la Torah sait cela. La Torah qui nous dit que le monde a été créé, c'est le premier verset. C'est que notre perception du monde nous renvoie à une hypothèse différente. Et c'est en particulier le cas de la modernité. L'homme moderne ne peut pas ne pas percevoir cette contradiction entre l'enseignement de la Bible dès le premier verset et sa représentation du monde. Il ne peut pas l'esquiver. Remarquez qu'on esquive tout cela. La familiarité fait que on croit qu'on peut s'arranger avec des contradictions. On ne peut pas s'arranger avec des contradictions. Par exemple, comme je cite souvent, on ne se rend pas compte de ce que nous dit la Bible dès le début. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était à l'état de chaos. On ne se rend pas compte de ce que la Bible nous dit là. Hein? C'est parce que c'est Dieu qui a créé la terre, alors elle est chaos. Elle devrait être ok. Non, elle est chaos. Bien. Mais le premier étonnement est d'abord celui-là. Alors qu'est-ce que ça signifie, ça? Mais le premier étonnement est d'abord un étonnement préalable. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a créé le monde, mais ça ne se voit pas quelque part, ça ne se voit nulle part. En tout cas, qui le voit? Celui qui est informé d'autre part, alors il le voit. Je vais vous donner un exemple. C'est une question de méthode de l'histoire de la culture élémentaire. L'observation, le contenu de l'observation dépend du point de vue de l'observateur. Si un coucher de soleil est perçu et représenté par un peintre, il y voit des nuances de couleurs enchanteresses. Si c'est perçu par un physicien, il se met à calculer les différentes longueurs d'onde des vibrations. Et ça dépend qui observe. Si un croyant observe un coucher de soleil, il vous dira, vous voyez que Dieu existe. Si un positiviste observe un coucher de soleil, il vous dira, vous voyez que ça marche tout seul. Ça veut dire que rien dans la représentation du monde ne tranche à ce sujet. Alors je reviens à ce que disait immédiatement, mais ça la Bible le sait. La Torah le sait, qu'elle va nous dire, au commencement Dieu créa le ciel, et que le lecteur juif normal va lui dire, mais ça ne marche pas. Or, l'objet du récit du premier chapitre, c'est précisément de nous identifier le monde dans lequel nous nous trouvons. Et ce récit nous raconte que Dieu a créé le monde, mais au bout d'un certain stade de l'organisation du monde qu'il a créé, il a cessé d'intervenir, et il a transformé le monde dans ce que nous appelons, nous, la nature. C'est ce qui s'appelle, en termes de la Bible, Shabbat, du Créateur. Dieu cesse d'intervenir, et la trace de cette cessation d'intervention transforme le monde de création en nature. Ça va jusque-là? Ça veut dire qu'on nous identifie d'abord le monde dans lequel nous sommes. Quelqu'un qui viendrait me dire « Je vois le monde en Gésine, les 6 jours hein, », dirait. Gentiment, il faut dire qu'il est mystique. Mais il faut s'inquiéter. C'est clair. Quelqu'un qui dirait le monde, ce n'est que la nature, eh bien c'est très clair, c'est quelqu'un qui se situe en dehors du discours biblique. Mais quelqu'un qui se situe dans le discours biblique ne peut pas rester dans cette contradiction. C'est ou l'un ou l'autre. Eh bien le récit de la Torah fait éclater cette contradiction. Il nous dit non, l'identité du monde c'est une création devenue nature. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et il y a des raisons pour cela. C'est-à-dire, essentiellement, l'histoire de l'homme devant commencer, il faut que la création soit stabilisée en nature, déterminée en nature, pour que l'homme puisse être libre. Parce que si le monde n'était pas régularisé par des lois, la liberté serait donnée. S'évanouirait, comme on dit. Je pense que le principe est suffisamment clair. Pour que la liberté puisse être effective, il faut qu'elle s'appuie sur un monde de représentation stabilisé. Si je ne sais pas quel est l'état des molécules dans l'instant qui suit, je ne peux pas prévoir mon comportement pour l'instant qui suit. C'est bien clair. Bon. Ceci est bien schématique, il faudrait plusieurs heures pour élucider cela, mais voilà ce que ça signifie. Reconnaître que le monde est dans l'état du Shabbat, c'est reconnaître qu'il a été créé. Je donne un principe analogique. C'est pourquoi tous les textes qui parlent du Shabbat reviennent à cela. C'est-à-dire que l'alliance du Shabbat, c'est l'attestation de l'existence du Créateur, cachée derrière l'apparence de la nature. Le jour du Shabbat, je me relie au monde en tant qu'il est création. Alors que les six jours de la semaine, je me relie au monde avec permission de l'utiliser comme étant nature. Mais cette permission de l'utiliser comme étant nature va me faire oublier qu'il est création. Alors Zachor est Yom HaShabbat. Le septième jour, je récupère la relation avec le monde de la création. Et donc, je suis dans la position de l'inviter chez quelqu'un, le maître du monde. Alors que pendant les six jours, je fais comme si c'était moi, le Baal HaBayit, le maître du monde, et que j'ai un invité là-haut. Quelque chose comme ça. Vous avez compris, vous ? Donc, nous avons la réponse à notre question. La tshuva, c'est le psaume de la tshuva, c'est le psaume du Shabbat. Parce que c'est l'expérience du Shabbat qui est l'expérience de la tshuva. Encore une fois, il y a trois moments en ce raisonnement. La faute, c'est nier le Créateur. Le Shabbat, c'est le reconnaître. Et par conséquent, la reconnaissance du Shabbat, c'est la tshuva. Et donc, lorsque la Dame Arishon comprend que la tshuva est possible, il dit « Mizmor shir le yom ha-shabbat ». C'est pas plus compliqué que ça. Okay? Seulement, depuis le temps du premier homme, on avait oublié, et Moïse a renouvelé cela. Il ne pouvait donner la Torah qu'avec comme clause préalable que la tshuva est possible. Si nous restait du temps, je vois que je me suis un peu trop étendu sur le premier texte, les trois quarts d'heure sont passés. Hein? Oui. Alors on va avoir une petite arsaquette. Je vous montrerai que précisément, c'est au temps de la sortie d'Égypte que va se, dans le récit de la faute du veau d'or plus exactement, que la Torah nous donne cette différence, l'enseignement de la différence de nature entre la mentalité hébraïque qui est prête à accepter la Torah parce qu'elle connaît la possibilité de la tshuva, et d'autre part, la mentalité non hébraïque, dans le cas le plus privilégié, toute cette foule de population qui est sortie d'Égypte avec les Hébreux pour participer à l'histoire des Hébreux, mais qui, encore de mentalité non hébraïque, ne pouvant pas envisager l'éventualité de la tshuva, finalement, tombe dans la faute du veau d'or. C'est en particulier, je le signale pour ceux qui l'ont déjà étudié, ce que signifie l'expression « peuple à la nuque raide ou rude, dure, am kshéhové ». On croit à tort, mais c'est une calomnie, que la Torah dit ça d'Israël. La Torah l'a dit de ceux qui se sont adjoints à Israël sans connaître, sans admettre l'éventualité de la Torah. Je vous donne très brièvement les principaux commentaires à ce sujet, parce qu'on n'a pas le temps de le voir en détail. C'est en particulier Rashi et Sforno. Rashi qui dit ils tournent leur nuque à ceux qui leur font de la morale. Sforno ajoute, de telle sorte qu'il n'y a plus aucune chance qu'ils fassent Shuvah. C'est-à-dire, lorsque Dieu dit à Moïse, j'ai vu ce peuple que tu as fait sortir d'Égypte, il ne s'agit pas d'Israël, mais de ceux que Moïse a fait sortir avec Israël. Et voici, c'est un peuple à la nuque raide. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire, peuple à la nuque raide? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de chance de faire Shuvah parce qu'ils tournent la dureté de leur nuque à ceux qui les mochiham, à ceux qui les exhortent à la moralité. Mais quelque chose de plus profond dans le sémantisme même des mots, et on y reviendra peut-être une autre fois, et cette qualité, si j'ose dire, d'entêtement, ce défaut d'entêtement, finalement, s'est intégré à Israël avec le Erevav, avec toute cette population sortie d'Égypte en même temps qu'Israël. Mais il faut savoir que, d'après la Torah, ça ne définit pas Israël, mais l'égoïme précisément. Sur ce point, je terminerai en vous racontant une petite histoire rabbinique qui est arrivée à un rabbin de mes amis, qui était rabbin dans une communauté du sud de la France. Il avait des histoires avec son président. Et alors, le soir de Kippour, il avait décidé quand même de dire ce qu'il avait sur le cœur. Et puis il a fait un sermon de morale. Vous savez qu'en général, il y a une sorte d'injustice pour ceux qui vont à la synagogue. Parce que le rabbin engueule ceux qui ne sont pas là, mais qui s'adresse à ceux qui sont là. il leur dit toutes les fautes que les autres ont faites. Alors, finalement, ce rabbin a dit, et puis il a répété 10 fois, « Et ne croyez pas que je parle à quelqu'un d'autre que vous. » Et en se tournant vers son président, le pêche. Après le sermon, le président l'a félicité. « Qu'est-ce que vous leur avez dit ?» C'est-à-dire, ils ont tourné. C'est ça, quelque chose. Et puis, sur ce point, en tout cas, je voudrais reprendre les données de départ. Vous avez dit, il y a une impossibilité du fonctionnement de la pensée naturelle. Parce que le temps est irréversible. Alors, vous retiendrez tout simplement que la seule langue au monde qui connaît la réversibilité du temps, c'est l'hébreu. C'est-à-dire qu'il y a une expérience de l'être hébraïque que le temps peut être réversible. En tout cas, le temps intérieur, le temps moral. D'autre part, la difficulté du point de vue de la conception légaliste de la moralité, si la loi, c'est les principes impersonnels, il y a injustice dans la notion de Teshuvah, et la réponse est que nous sommes devant quelqu'un avec qui il peut y avoir Pshara. Vous vous rappelez du texte du Midrash, Venit Pasharti. C'est-à-dire que la loi, on ne discute pas. Mais avec celui qui a voulu que la loi soit ce qu'elle est, et qui a voulu que nous soyons nous comme nous sommes, on peut discuter. C'est ça la possibilité de la chose. D'une autre façon, je retrouve une des intuitions du début, c'est que le commencement de l'expérience religieuse, que l'on est devant quelqu'un, c'est cette intuition que la tshuva est possible. La religion commence là. Le reste, c'est de la philosophie. La philosophie religieuse devant la loi morale, et cette espèce de tonalité, atmosphère, pessimiste, désespérée, qui définit la civilisation humaine lorsqu'elle se situe en dehors de l'espérance des prophètes hébreux. Voilà en tout cas pour le premier texte que je voulais toucher. Je ne sais pas si tout à l'heure j'aurai la force de voir le deuxième, mais on va prendre quand même tout à l'heure, après 5 minutes, un petit moment si vous avez des questions. Sur l'ensemble du séminaire d'ailleurs, on est fait à les mettre. Vous voyez, tout ça que je vous ai dit, c'est écrit là, mais je n'ai pas eu le temps de le montrer. Encore un peu. Un peu de temps pour quelques. Vous avez eu tout un ensemble de notions, de termes, de principes. Alors, si quelque chose est resté pas clair, ou que vous ayez une question à poser, on va prendre un petit quart d'heure comme cela. Et je terminerai en vous lisant un texte des Chassidim sur la Tchou. Ken. Parce que pshara, ça veut dire que on est arrivé. Le mot est peut-être en français un peu négatif, compromis, pshara. On est arrivé, après un débat, à se mettre d'accord sur les conditions d'un sursis. Mais pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un. On est devant quelqu'un. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire qu'avec la loi, on ne discute pas. Tant qu'on est encore avec la conception de la moralité, qu'il s'agit de la transcendance de principes impersonnels, la notion de tshuva est impossible, impensable. Oui. Parce que si non, parce que ça veut dire que c'est une tshuva intéressée. On ne fait pas tshuva à certaines conditions. Ça veut dire qu'il y a eu cette hypothèse invraisemblable. Je regrette. Je fais tshuva. Et dans l'idée que ce n'est pas possible. Mais il y a l'exigence, l'élan. Et voilà que j'ai rencontré quelqu'un qui en a parlé avec moi. Okay? J'ai surtout parlé sur ce point pour ceux qui ont suivi le deuxième exposé de Shmuel Goda. Il vous a analysé une longue gomara, enfin longuement une petite gomara. Je vous rappelle très brièvement, on a interrogé la sagesse. Elle a répondu Hataim Tirdofara. Les pécheurs seront poursuivis par le mal. On a interrogé la prophétie. Elle a dit Nefesh Harote Titamut. La personne qui a fauté mourra. On a interrogé la Torah. Yavi Korban Beit Kaper, qu'il apporte un sacrifice, il sera expié. On a interrogé Dieu, il a dit, il y a assez de Shuvah Beit Kaper. Et alors, l'essentiel de cette Gemara, c'est cela. Il faut découvrir, pour que la Shuvah soit possible, qu'on est devant quelqu'un. Tant qu'on est confronté avec la loi impersonnelle, l'idée de Shuvah est impensable et renvoie à la désespérance de la mauvaise conscience. Alors, il est évident qu'en dehors des Hébreux, aujourd'hui, beaucoup d'hommes effectuent le comportement de Tshuva, mais c'est parce qu'ils hébraïsent. Est-ce que c'est clair? Par exemple, j'ai fait allusion un peu à la position originelle de la théologie chrétienne, qu'il faut lire surtout dans les textes de Paul, par exemple, et encore une fois, je pense que c'est très important, il n'y a aucun compromis possible entre ces deux visions du monde, la juive et la chrétienne, dès l'origine sur ce point. Le refus de la loi vient d'un athéisme profond. Parce qu'on se mesure à la loi comme si c'est la loi romaine, comme si c'est la loi grecque, et pas la loi hébraïque dite par quelqu'un. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Mais je sais bien que je choquerai n'importe quel croyant du christianisme en disant cela. Mais au bout d'un certain temps, 6000 ans, on arrive à se comprendre. C'est que le christianisme a été fondé du dedans d'un athéisme radical. Alors, qu'est-ce que je disais juste avant? Enfin, je pense que j'ai suffisamment répondu. C'est un chidouche de la Torah. Or, et ce chidouche de la Torah ne pouvait être donné qu'à Israël. Je veux dire qu'Israël est déjà une certaine manière d'être homme capable de percevoir cela. Il y a une nature humaine qui est capable de cela. Ça s'exprime dans sa langue. Le va convertir. Le fait d'inverser le temps. Et notre histoire en est la preuve. Notre histoire, c'est l'histoire d'un va convertir. Ce qui a été un passé révolu est devenu un futur absolu. Ça n'est arrivé dans l'histoire d'aucun peuple. Je pense que c'est clair, je parle par allusion. Je me souviens à votre âge, à l'université, on parlait de l'hébreu comme une des langues mortes. Le professeur ne savait pas qu'il y avait dans la salle un petit juif qui le regardait comme un être préhistorique. Alors imaginez ça. J'ai entendu de mes oreilles ça. Alors, je me suis adressé en hébreu au professeur. Bon. Et subitement, ce passé décomposé, dans le livre, redevient un futur inconditionnel. Et puis, le peuple juif avait un passé hébraïque. Voilà que subitement, il a un futur hébraïque. C'est-à-dire, notre histoire est comme ça. Notre histoire est la preuve que la Tshuva est possible. C'est-à-dire, je ne peux pas dire ça autrement. Si la Torah s'est adressée à Israël, c'est parce qu'il y avait qu'Israël qui comprenait l'hébreu. Je veux dire, la Torah a été révélée à l'humanité, mais elle a été entendue par Israël. Et puis, je vais employer une image de télévision, l'émission a été en direct, captée en direct en Israël et en différé chez l'égoïsme. il y avait une manière d'être homme qui était appropriée à la Torah. Alors c'est pourquoi Dieu s'adressait. Et les Juifs eux-mêmes ne se rendent pas souvent compte, toujours compte, de ce que ça signifie, ça. Que ce n'est pas par hasard que la Torah est en hébreu. Je pense que c'est clair. Top. Y a-t-il une autre question ? Oui. Ça veut dire que, d'une certaine manière, ça implique qu'il est évident qu'il va y avoir des fautes. Qu'il est évident que le mal va fonctionner. Et c'est pour ça qu'il faut une soupape de restauration qui est la tshuva. C'est évident. Mais rappelez-vous ce que je vous avais dit de la difficulté des philosophes d'entendre la notion de création. Okay. C'est évident que tant que le monde ne s'est pas mérité, il est en imperfection. C'est-à-dire, l'histoire du monde, c'est l'histoire d'un monde condamné à être imparfait jusqu'à ce qu'il se perfectibilise. Okay. Et par conséquent, tant que le monde n'est pas arrivé à être bien, il est mal. Étant donné que il en est ainsi, il faut donc que la tshuva soit une des conditions préalables de possibilité. Je veux dire, la Torah nous dit que Dieu a créé un homme. Et par conséquent, dès ce fait-là, nous savons qu'il va fauter. C'est clair ? Rappelez-moi, je vous lis un texte du Rav Kook là-dessus. Seulement, il y a une atmosphère radicalement différente, encore une fois, dans le registre chrétien, disons dans le registre non-juif lisant la Bible, et le registre hébreu. Et quoique du point de vue de l'histoire individuelle, du sort individuel des sujets, des personnes, la première faute faite, c'est toujours une catastrophe, assez irréversible. Puisque nous parlons français, péché originel, ça peut avoir deux sens. Le premier péché commis, la première faute, le péché originel dans le sens du le premier péché, et d'autre part, cette idée de péché qui a eu lieu à l'origine et qui pèse sur l'humanité tout entière. Okay. C'est différent. C'est-à-dire, toute faute commence par ce péché-là. Et ce péché-là, c'est quoi ? On a eu la définition tout à l'heure. C'est parce que Dieu dit qu'est la loi morale, c'est ce que moi je dis qu'est la loi morale. Je fais ce que je veux. C'est ça le commencement de toute faute. C'est clair. Et l'atmosphère est tout à fait différente. Donc, pour la tradition juive, encore une fois, quelles que soient les conséquences catastrophiques, l'événement en lui-même est un incident, une faute de métier, un raté de l'identité humaine. Tandis que dans le registre de lecture non-juive, donc chrétienne de la Bible, c'est une tragédie, c'est une malédiction. Et une malédiction qui n'a pas de réparation. Il faut que Dieu lui-même prenne d'une certaine manière cette faute sur lui pour qu'elle soit levée. C'est de la magie. Je pense que c'est clair. C'est-à-dire, ce même texte, lu par un hébreu et lu par un non-hébreu, ont une résultante radicalement différente. Il y a un très joli midrash, très profond, qui nous dit ceci. Chaque fois qu'un homme ou une femme va mourir, Adam Rishon vient à son chevet et lui dit, mon fils ou ma fille, c'est pour ta faute que tu vas mourir, pas pour la mienne, que les choses soient claires. Alors, voilà, là aussi, il faut démystifier le pathétique de l'idée de mal, de l'idée de mal nécessaire, si j'ose dire. Ça s'attache au fonctionnement du monde jusqu'au bout. Quelque chose est en apprentissage. Et tant qu'il est en apprentissage, il n'est pas encore sage, si j'ose dire. Mais enfin, tant que ce n'est pas abouti, c'est encore en chantier. Je donne souvent l'image suivante. Un jour, il y a un juif qui est allé chez son tailleur commander un costume. Et le tailleur lui a dit, bon, rendez-vous dans 6000 ans, tu auras ton costume, tu verras comme tu seras beau, le roi de la création. Mais le juif était très pressé. Et tous les ans, il allait voir l'état de son costume. Et chaque fois, il dit, que ça, mais c'est un monde raté, c'est un costume raté. Il voyait des ébauches sur un établi de tisserand, enfin de tailleur. Okay. Un peu de patience. Subitement, le costume a été fait et il était parfait. Mais tant qu'il est en brouillon, il est en brouillon. Je pense que c'est clair. Alors, tant que le monde est en brouillon, il est en brouillon. Et par conséquent, inévitablement, l'histoire va être aussi l'histoire des fautes. Conte d'humour, ça commence comme ça. Avec un raté. Ça y est, c'est clair. Donc, y a-t-il un autre... Mais il suffit de réparer. Je vais vous lire ce texte. J'ai pas le temps de traduire, et puis il faut aussi un peu de tension que je n'ai plus ce soir, mais voilà ce que le Rav dit. Prenez la référence, c'est le paragraphe 6 du chapitre 5 de Orot HaTshuva. Il dit, l'homme se définit par une exigence d'absolu. Or, il est relatif. Et donc, il ne peut pas être heureux. C'est-à-dire, il y a une impossibilité du bonheur moral parce que cette exigence de parfait se heurte à l'imperfection congénitale de l'homme. La solution, c'est là l'effort de perfectibilité. Être constamment en tshuva, c'est être parfait, alors qu'on est imparfait. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi, c'est là d'ailleurs que le Rav Kook donne la solution de la controverse entre Nachmanide et Maïmonide en disant que la tshuva, c'est un comportement naturel de restauration de la perfection. Et par conséquent, ça va dans le sens de Maïmonide, on ne peut pas dire qu'il y ait mitzvah qui légifère sur le comportement naturel. La mitzvah légifère sur la forme du comportement naturel. C'est clair ? Là, vous ne trouverez pas une mitzvah qui vous dira « mange ». Mais vous trouverez une mitzvah qui vous dira « voilà comment on mange ». Okay ? Alors, vous ne pouvez pas avoir une mitzvah qui vous dise « fait tshuva ». Parce qu'à qui elle s'adresse ? Elle s'adresse à quelqu'un qui a connu une fois l'évidence de la loi. Alors, on retrouve l'aristocratie de Maïmonide. On fait confiance à cette personne qu'elle reviendra à son exigence de la loi. C'est inévitable. Elle reviendra à sa pureté originelle, si elle est authentique, normale. C'est un comportement naturel, c'est une promesse. En fin de compte, tu reviendras. Alors quand tu reviens, authentifie, avoue. C'est, ça, c'est Maïmonide. Et alors, il en résulte que le Rav Kook ici élargit ce principe en lui disant que finalement, qu'est-ce que c'est un juste, un tzaddik? C'est quelqu'un qui est perpétuellement en tshuva. Et c'est la condition de la conscience heureuse. Je veux dire que c'est dans l'effort de perfectibilité qu'est résolue cette contradiction insoluble entre la perfection et l'imperfection. Pardon ? Non, dans le cas où j'ai fait du mal à quelqu'un. Okay ? Alors, je ne peux pas me borner à penser dans mon fort intérieur, et toi là-bas, tu sais, si je te fais du mal, pardonne-moi. Ou bien un coup de téléphone, formalité. Okay ? Il faut que, avec deux témoins, j'aille lui dire ce que je lui ai fait et demander pardon. Sinon, c'est une formalité. C'est clair ? Je veux dire une chose. Le tort qu'on a causé à quelqu'un ne peut être réparé que si on lui demande pardon à lui, pas à moi. Pas, c'est que j'ai pitié de moi, alors je me pardonne de lui avoir fait du mal. Ouais. Je veux dire même juste... Oui, oui, oui. Parce que... il faut dire, il faut avoir le courage de dire ce qu'on a fait. C'est ce point que le point le plus difficile de la tshuva, c'est l'aveu. Quand on est capable de reconnaître en le disant ce qu'on a fait, on en est guéri. C'est la différence entre le remords et le repentir. Le remords, c'est le signe qu'on n'a pas fait repentir. Le repentir, c'est le signe de la guérison. Tant qu'on est dans le remords, c'est qu'on est encore malade de ce qu'on a fait. Je ne dirais même plus, si qu'on a fait la halakha est comme ça, on a fait du mal à quelqu'un qui entre-temps est mort, comment on va faire, hein? Alors d'après la halakha, on peut venir à Minyan, 10 personnes, devant la tombe, et on avoue ce qu'on a fait. Et sinon on n'est pas guéri. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous lire un texte des Chassidim. Thank you. je vais lire simultanément en hébreu et en français. Il s'agit d'un enseignement de Rabbi Bounam.